Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours Adapter son business dans un monde en déconsommation. On va voir ensemble les vrais enjeux de la RSE. Puisque c'est vrai que la RSE, je trouve que c'est une démarche qui est vraiment très intéressante, mais elle ne permet pas le plus souvent d'aller au fond des choses et de bien comprendre pourquoi il ne faut pas juste changer un petit peu sa manière de faire, mais il faut véritablement changer radicalement son business model. Alors je me présente, je suis Frédéric Canavette, je suis chargé de projets digitaux chez un gros éditeur de logiciels, de relations clients. Mais ça fait également près de 18 ans que je suis blogueur et consultant sur conseilmarketing.com, qui est un blog consacré au marketing B2B. Donc j'ai écrit plusieurs livres, donc le course hacking, doper votre business avec un chatbot, et plus récemment avec Adapter son business dans un monde en déconsommation, où j'explique justement comment on fait pour adapter son activité lorsqu'en fait la crise arrive et on voit bien qu'on touche les limites de la société de consommation. Donc là, en fait, cette formation est tiré de ce livre et le but c'est vraiment de vous aider à mettre ça en application. Alors le défi de ce module de formation, c'est simple, c'est résumer l'impact de la déconsommation sur les entreprises et essayer de commencer à agir. Parce que c'est vrai que présenter ce qui nous arrive en pleine figure, c'est pas ça qui va être le plus intéressant. Ce qui m'intéresse moi, c'est vous donner des clés et des pistes en fait pour agir dès à présent. C'est vrai que pour moi, c'est ça, c'est pourquoi on doit agir maintenant et pourquoi je me dis, tiens, on va arriver dans un monde en déconsommation, un monde qui va aller de crise en crise, et pourquoi on doit changer. Ensuite, quels sont les impacts pour les entreprises? Et on verra la partie offre et demande, et on se concentrera sur l'offre. Et ensuite, on verra quatre piliers sur lesquels vraiment baser l'entreprise de demain, sur l'organisation, sur tout ce qui est empreinte écologique, sur l'adaptation de ses offres à la déconsommation, tout ce qui est prospection et fidélisation en mode des growth hacking et la partie organisation. Pour moi, ce sont des piliers essentiels et que je vais déployer pour essayer, enfin, que je vais vous présenter pour essayer que vous les déployiez dans votre entreprise pour la rendre un petit peu plus stable malgré les changements conjoncturels et structurels. Alors, ici, ça c'est la première partie, la partie offre qui est vraiment importante parce que c'est là où on va agir au niveau d'entreprise. Mais je peux pas parler de déconsommation et d'entreprise si on ne parle pas de la partie demande, puisqu'en fait, le marché c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Donc il faut vraiment travailler sur les deux, autrement on n'aura qu'un des leviers à mettre en place. Et pour moi, je suis quand même obligé de vous parler de la partie initiative individuelle pour qu'on puisse y arriver. Voilà. À la fin, on verra en quelques lignes ce qu'il faut retenir et un petit quiz que vous pourrez tester pour vérifier si vous avez tout compris. Alors, le pourquoi de ce cours, hein, c'est pour moi vraiment ce qui est le plus important, c'est une prise de conscience. Voilà, qu'est-ce qui nous arrive et surtout les pistes pour y faire face à votre niveau. Parce qu'en fait, le problème, c'est que plus on attend, moins les choix vont être faciles, plus les choix vont être durs, et plus ça va être compliqué, et plus on est tôt à agir, plus on aura du temps pour s'y mettre, pour anticiper les choses, et on se retrouvera moins pris dans le stress, dans l'urgence, qui fait souvent prendre de mauvaises décisions. Le but, en fait, c'est pas de chercher, voilà, la perfection et devenir amiche et décroître immédiatement, etc., etc. Mais c'est essayer déjà de faire des petits efforts chaque jour. Et au fil du temps, on verra tout simplement que ces efforts vont donner des gros résultats. Donc commencez simplement, le but c'est de s'y mettre dès maintenant. Alors ce cours est vraiment destiné aux salariés, freelance, chefs d'entreprise, marketeurs, managers, toutes les personnes en fait qui sont en entreprise. Pour agir au niveau individuel, il y a des experts. Et là, je vous ai mis quelques petites photos. Je pense qu'il y a certaines personnes que vous connaissez. Donc n'hésitez pas, regardez-les attentivement. Je vous ai fait donc une petite liste et vous verrez que j'ai fait un classement. Donc mettez une pause hein, si vous voulez regarder, essayer de voir qui sont ces visages et s'ils vous disent quelque chose. Donc voilà, donc ce que je voulais vous mettre, c'est ce classement qui est à des personnes qui disent voilà, on va y arriver. Par exemple Antoine Benoît hein, qui a un livre qui, je crois que ce qui est genre la crise, la décroissance n'aura pas lieu ou la crise n'aura pas lieu ou un truc comme ça, qui est assez intéressant parce qu'il dit voilà, le génie humain va permettre de trouver des solutions. Voilà, donc grosso modo, tout va très bien, madame la Martine. Voilà, c'est un petit peu la philosophie. Et après, à l'autre bout du spectre, vous avez des gens qui nous incitent à dire waouh, on va tous crever, grosso modo, on va dans le mur et ça va très mal se passer. Et au milieu de ça, vous avez des gens qui sont plutôt consensuels sur le sujet, qui essayent en fait de trouver des solutions sans être dans la déprime totale. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand même voir un petit peu toutes les opinions qui sont présentées sur ce graphique. Alors au départ, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'aller dans la modération. Donc c'est un petit peu comme lorsqu'on déguste du bon vin ou qu'on a un bon repas. Généralement en commun, on commence toujours par un vin un petit peu léger et on va pas aller chercher dans un vin trop fort, trop dur. On va pas prendre une vodka ou une tequila dès le départ. On va essayer de prendre quelque chose qui va être un peu plus doux. Autrement, ça va vous casser le goût et ça va détruire votre palais. Donc ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de commencer par un petit Jean-Marc Jancovici. Vous tapez en fait sur Google ou sur YouTube. Je pense que ça sera mieux même sur YouTube, vous trouverez ces différentes interviews et donc vous voyez c'est assez intéressant de voir un point de vue qui est très cartésien, très structuré, en particulier sur la partie énergétique. Après vous avez des gens qui sont un petit peu plus philosophes, genre René Barrault. Autrement j'aime beaucoup aussi Jean-Baptiste Fressoz avec cette partie histoire qui est assez intéressante. Vincent Minnerot sur la partie transition énergétique puisqu'en fait il a un point de vue qui est aussi très cartésien rationnel. Vous avez Timothy Parry qui est plus dans le domaine de la révolution plutôt que de l'évolution. Néanmoins, ces pensées sont vraiment intéressantes et doivent être prises en compte. Et en dernier, alors je ne sais pas si je le mets en extrême de manière tout à fait logique, mais c'est vrai qu'Arthur Keller est assez, comment dire, franc sur ce qui nous arrive et n'est pas très optimiste sur la situation. Hein. C'est vraiment à l'inverse d'Antoine Benauf. Néanmoins, je pense que c'est une personne qui est essentielle d'écouter pour savoir un petit peu ce qui nous arrive et ce qui va nous tomber sur la tête. Voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est un petit quiz. Alors, selon vous, quel est le point commun entre toutes ces sociétés? Alors, vous avez en haut le désert de Nazca avec la civilisation Nazca, hein, c'était donc en Amérique du Sud. Vous avez les cités mayas qui ont été abandonnées pendant, qui ont été quand même rayonnantes pendant des dizaines d'années, voire des centaines d'années, et qui ont été abandonnées. Vous avez la ville d'Angkor, donc avec au Cambodge, avec les Khmers, qui était aussi une cité qui était vraiment resplendissante et qui a également été abandonnée. Et je vous ai mis en bas à droite la Révolution française. Alors, à votre avis, quels sont les points communs entre ces différentes sociétés ou civilisations? Donc, réfléchissez un peu. Si vous le souhaitez, mettez une petite pause pour réfléchir. Autrement, on va passer à la suite. Donc le point commun entre ces sociétés, c'est qu'elles ont eu vraiment un impact important sur leur évolution avec le climat ou des phénomènes qui sont liés à la déforestation en particulier. Par exemple, moi j'aime bien citer j'aime bien citer les cités mayas comme un exemple typique. Hein. Les cités mayas, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un changement climatique, en particulier avec El Niño, qui a fait que cette civilisation qui était extrêmement avancée, hein, il y avait en plein milieu de la jungle, il y avait la culture du maïs, il y avait vraiment beaucoup de personnes, une société qui était vraiment très riche, on se souvient tous de tout ce qui est astrologie, etc. Donc vraiment une société qui était vraiment très puissante, avec beaucoup de personnes, beaucoup de moyens, puisqu'ils ont quand même construit des temples gigantesques, mais qui ont été abandonnés. Et en fait, ce qui s'est passé, donc c'est un changement climatique, El Niño qui a fait changer en fait le climat, avec des grosses sécheresses qui ont duré pendant plusieurs années, qui en fait que malgré les efforts qui ont été faits, parce que les Mayans ont créé comme ça des citernes pour en pierre hein, pour récupérer d'eau. Malgré tout ça, en fait, la civilisation s'est effondrée et les gens, tout simplement, à la fin, sont entretués. Enfin, ils ont tué surtout les élites et ils sont partis. Ils ont abandonné les cités, abandonné les villages. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs reportages là-dessus où ils montrent que les gens ont quitté leur maison et leur ferme, en pensant y revenir. Je crois qu'à un moment donné, comme ça, un reportage où on voit qu'une personne a laissé, je crois que c'était quelque chose pour moudre le grain, qu'il n'avait pas jeté comme ça, il avait juste mis à l'envers pour qu'elle soit protégée, mais en fait, personne n'est jamais revenu. Le désert de Nazca, là aussi, il y a eu plusieurs histoires. Il y a bien sûr la déforestation, puisqu'en fait, pour construire leur bâtiment, etc. Ils ont utilisé beaucoup le bois. Ensuite, il y a eu l'érosion, puisque forcément, quand on enlève tous les arbres, etc., quand ils flottent, la terre part et c'est fini. Là, on peut plus rien faire pousser. Et aussi des aléas climatiques. La ville d'Angkor, ça aussi, c'était, je pense que c'est assez emblématique. C'était vraiment une entreprise, une société qui était très riche, très culturellement riche, avec beaucoup de ressources, etc., etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un changement climatique avec de la sécheresse, encore une fois, malgré ce que l'on peut voir sur la photo, le lac qui était devant, ben, il y a eu des grosses, grosses sécheresses, malgré tous les canaux qu'ils ont construits, vraiment un génie climatique qui était pour l'époque exceptionnel, hein, et hydrologique aussi. Ils ont mis en place des choses énormes. Et ben, malgré tout ça, ben, la société s'est effondrée à cause de sécheresses, mais également aussi de moussons extrêmement fortes, donc une instabilité climatique qui a fait que ben, tout ce qui était matériaux, etc., n'ont pas pu résister, les ponts, l'irrigation, etc. Et enfin, pour finir, quelque chose de plus proche de nous, la Révolution française, puisque bon, la Révolution française n'est pas liée comme ça par hasard à un changement de mentalité. Il y a certes le siècle des Lumières, il y avait tout ce qui était bah, comment dire, l'évolution des penseurs pour parler moins de Dieu, etc., etc. Certes, c'est vrai, mais le déclencheur a quand même été bah, la crise économique, hein. Si vous vous souvenez de vos livres d'histoire, vous vous souvenez de ce passage où les révolutionnaires marchent sur Versailles, arrivent là-bas et ils demandent du pain à Marie-Antoinette qui disait qu'on leur donne de la brioche. Bah, s'ils sont venus, c'est qu'ils mouraient de faim. Et c'est clairement pour ça. Donc c'était encore une fois cet aspect climatique, mauvaise récolte, qui en fait que les gens sont révoltés. Alors il y a un livre qui est vraiment très intéressant sur le sujet, c'est le livre de Olivier Postel-Vinet, qui s'appelle Sapiens et le climat, qui vous racontera beaucoup mieux que moi tous ces aléas, et qui vous expliquera en quoi l'Empire romain a chuté en partie à cause des problèmes de climat et de récolte en Égypte, etc., etc. Pourquoi aussi les Vikings ont dû abandonner le Groenland alors qu'ils étaient installés, parce qu'il y a eu le réchauffement climatique, pourquoi la peste à déferler en Europe à un certain moment. Bref, il y a vraiment des choses très intéressantes. C'est un livre qui se lit extrêmement bien et vous avez même une version audio que je vous recommande qui est très agréable à écouter. Alors, maintenant, on va passer un petit peu à des choses un peu plus proches de notre réalité à nous. On quitte ces siècles passés. Je voulais savoir qui connaissait les limites planétaires. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, n'hésitez pas, hein, réfléchissez un peu. Vous pouvez utiliser Google d'ailleurs, ou un IA si vous souhaitez vous réfléchir. Donc les limites planétaires en fait viennent de Johan Rockström du Stockholm Resilience Center, qui a identifié en fait 9 grosses processus clés pour le bon fonctionnement de la Terre. Il appelle ça le système Terre, en disant bah voilà, il y a des choses qui participent au fait que bah, il y a la vie sur Terre et qu'on peut vivre sur Terre, et en particulier il y a le climat, il y a la biodiversité, les cycles de l'eau, les nutriments, etc. Et que si ces cycles et ces limites en fait sont dépassés, alors la Terre va subir des perturbations irréversibles qui peuvent rendre la Terre totalement invivable. Alors à chaque fois, je vous ai mis vous voyez, des petits liens, vous pourrez consulter si vous souhaitez avoir plus d'informations. Alors de manière concrète, la mauvaise nouvelle, c'est que sur les 9 limites qui ont été listées, eh ben on en a déjà dépassé 6 en 2023. Donc c'est assez compliqué puisque en fait, ben, on a dépassé tout ce qui est nouvelle pollution chimique avec les polluants, les pesticides, etc., etc. Les changements climatiques, hein. Vous savez comme moi, la concentration de CO2 dans l'atmosphère qui change le climat, l'intégrité de la biosphère, diversité générique, diversité fonctionnelle, hein. Il y a quand même un effondrement de la biodiversité, et pas que en Amazonie, partout, la barrière de corail, etc., etc. Des changements d'usage des sols, on l'a vu, les sols sont sous perfusion avec des pesticides et des engrais, mais malheureusement, ils ne respirent plus. Il y a tout ce qui est le cycle de l'eau bleue et de l'eau douce, hein. L'eau bleue, l'eau douce, c'est les deux choses, c'est la partie évaporation et la partie écoulement, hein, toute cette partie-là. Et c'est vrai que là, on en parle encore. C'est la partie gestion de cette eau. Je l'ai dit précédemment, l'Égypte a été le grenier à blé de l'Empire romain pendant très longtemps. Actuellement, eh ben, ce qui se passe, c'est que l'Égypte est dépendante du fleuve Nil, sauf que ben, en amont, ben, il y a des pays qui commencent à mettre en place des barrages et qui vont conserver cette eau. Eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va forcément avoir des guerres de l'eau. Si à un moment donné, il n'y a plus assez d'eau et que les barrages retiennent l'eau en amont, ben, en aval, qu'est-ce qui va se passer? Les cultures vont souffrir et donc il va y avoir forcément des litiges autour de cette eau, comme on le voit dans d'autres régions de France. Donc il y a vraiment des soucis à se faire là-dessus. Puis il y a tout ce qui est cycle biogéochimique, hein. On en parlera tout après, par exemple le cycle du phosphate. Voilà. Après il y a d'autres choses où on est un peu moins en difficulté. L'acidification des océans, on voit que quand même ça touche des organismes, les aérosols, etc. Mais en fait, toutes ces choses-là vont avoir un impact sur notre vie au quotidien, parce que gérer individuellement le dépassement d'une de ces limites est déjà un sacré challenge, mais de voir tous les traiter de front en même temps et dans un contexte où on aura moins d'énergie, donc la fin de l'abondance énergétique, ça va être un défi jamais vu. Et si vous vous souvenez, on a parlé tout à l'heure des Mayas, on a parlé de la ville d'Angkor, et ben eux aussi ont eu ce genre de défi à relever. C'était des solutions des civilisations extrêmement développées pour l'époque, et pourtant elles se sont effondrées. Donc, je pense qu'il serait temps de prendre un petit peu conscience de ce qui s'est arrivé dans le futur pour anticiper ce qui va nous arriver à nous, puisque ça va être des choses qui vont être du même type. Ces sociétés-là ont aussi vécu des périodes de changement climatique. Nous, on va rajouter à ça de la pollution chimique des sols, on va avoir la fin de la biodiversité, on va avoir la fin de l'énergie abondante. Donc, en fait, c'est des défis qui sont complètement incroyables. Et malgré le fait qu'on soit des Iron Man, comme le dit Jean-Marc Jancovici dans son livre Un monde sans fin, on est devenu en fait boosté à l'énergie, on est devenu vraiment des nababs, des princes avec des bons génies avec des pouvoirs incroyables. Et ben ça va être extrêmement compliqué, puis ça aura aussi un impact direct sur les entreprises, puisque moi mon but c'est là. Mon but c'est pas d'aller parler pour les particuliers, c'est vraiment de parler pour les entreprises. Parce que notre société d'abondance, elle cache un véritable secret. Nous coupons la branche sur laquelle nous sommes assis. Et pour cela, en fait, et pour vous en convaincre, je vais vous donner 4 exemples de défis qui sont à venir et qu'on va devoir résoudre. Le premier défi, c'est le plus évident, c'est celui dont on parle le plus, c'est le climat, hein, forcément. Alors ici, je vous ai mis un petit graphique que j'ai capturé d'une présentation de Jean-Marc Jancovici, mais vous avez aussi un équivalent ici avec Wikipédia, qui est assez intéressant, qui est sur un temps un peu plus long. Vous voyez ici, c'est l'évolution des températures sur Terre, donc on le voit là, entre moins 500 millions d'années et maintenant. Là, on est plutôt en milliers d'années, hein, il y a un changement d'échelle, je pense. Et on voit bien ici, touc, cette petite augmentation qui est là, hein. On était quand même sur une période qui était de très belle stabilité, et c'est cette période de stabilité des températures qui ont fait que on a réussi à s'en sortir et que l'espèce humaine s'est développée, qu'on a eu des sociétés qui étaient quand même stables. Ah, c'est grâce à cette stabilité de climat. On l'a vu par le passé, il y a eu certes des changements, mais des changements qui étaient beaucoup moins graves, beaucoup moins compliqués. Et vous savez comme moi que pour s'adapter aux changements, il faut du temps. Un arbre, ça met 20 ans à être mature et à pousser. Si ici, on le voit, en quelques dizaines d'années, on a complètement changé le climat, ça va être compliqué. Et là, on voit ici l'évolution. On était sur quelque chose de stable et tout d'un coup, paf, on voit quelque chose qui a bougé, qui a explosé. Donc si on continue comme d'habitude, non seulement on va exploser le plafond des températures, ici voilà, température 2 degrés, etc. Si on continue comme ça, on va monter, mais surtout c'est cette rapidité d'évolution des températures. C'est quelque chose de jamais vu, et l'être humain, nos sociétés ne sauront pas s'adapter à un changement aussi brusque. Comme je disais, un arbre, ça met 20 ans à bouger, et on va pas déraciner les arbres et les faire bouger du sud de la France au nord de la France du jour au lendemain. Donc il y a vraiment des problèmes à gérer qui seront complexes avec des évolutions extrêmement rapides à notre niveau. Et c'est vrai que des experts le disent, hein. 4 degrés, c'est un monde dans le chaos parce que on a une instabilité croissante. Alors, des gens parfois se disent, oh, ok, 2 degrés de plus, bah, c'est pas si dur que ça, on va juste mettre un t-shirt un peu plus tôt avant l'été et un peu plus tard pendant l'été, puis on aura peut-être un peu plus chaud, mais c'est pas grave, on va se mettre à la clim, on va se mettre à l'abri, et puis voilà. Sauf que, à partir de 2 degrés, c'est la sécurité alimentaire européenne qui est compromise. Et un tiers de la France qui sera menacée par des pénuries d'eau. Et ça, si vous retournez à la petite slide dont je vous ai parlé sur la Révolution française, hein, les révolutions commencent souvent par des gens qui n'ont rien à perdre et souvent des gens qui crèvent de faim. On a vu le mouvement des gilets jaunes, le prix d'essence qui avait augmenté pour une taxe écologique, hein, ça a fait secouer le pays et pourtant les gens n'étaient pas dans une situation de crise vraiment importante. Là, avec une sécurité alimentaire compromise, c'est-à-dire tout simplement une perte de production agricole, une perte des matières premières, là, les gens ont vraiment une raison de se plaindre. Donc c'est très compliqué. Donc là, on voit bien que selon le degré qui augmente, entre 1, 5, 2, 3, 4, eh ben en fait, on a des risques très élevés sur différents sujets, avec à chaque fois un indice de confiance. Hein. Plus il y a de points, plus l'indice de confiance est important. Donc forcément, si on est à 2 degrés, c'est là, c'est ce sur quoi on va à l'horizon 2030, hein, 2100. 2 degrés, qu'est-ce que ça va être? Ça va être quasiment à coup sûr du stress thermique, de la surmortalité, etc., etc. C'est des perturbations des écosystèmes marins, vous voyez ici. C'est tout ce qui est perte un petit peu de production agricole, parce qu'on l'a bien vu, quand il pleut beaucoup à un mauvais moment, ou il fait trop chaud à un mauvais moment, les températures font que, ou les pluies font que, soit les plantations, eh ben en fait, elles vont pourrir sur place avec trop d'eau, soit elles vont être grillées. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on était capable en fait d'aller importer à l'autre bout de la terre des matières premières. Hein. Si ok, c'est pas grave, il y a du blé qui crève de soif en Europe ou en Ukraine, c'est pas grave, on va en importer à l'autre bout de la terre, on va prendre du riz. Sauf que si à l'autre bout de la terre aussi, c'est aussi des conditions compliquées, et en fait, on va pas y arriver. Donc voilà, donc production agricole extrêmement importante, la pénurie d'eau en Europe du Sud. Je vais parler de la France, mais on pourrait parler aussi de l'Espagne. Voilà. Pénurie d'eau en Europe centrale, qui sont un peu moins touchés. Eux, ils ont été, on l'a vu il y a quelques temps, avec les inondations qui ont lieu en Pologne, etc. Donc ça, c'est des choses qui vont toucher tout le monde. Voilà. Inondations, c'est clair que même si on parle de réchauffement climatique, ça ne veut pas dire qu'il va faire tout le temps plus chaud. On l'a vu avec les inondations qu'il y a eu en Pologne. Ces inondations-là ne sont pas liées au réchauffement climatique, mais elles ont accéléré les choses. Selon certains chiffres, le réchauffement climatique a augmenté la puissance des pluies de 25%. Sauf que si vous avez un pont, des canalisations, des irrigations qui sont faites pour atteindre tel niveau, si vous avez 25% de plus, et c'est ce qui peut faire la différence, et faire la différence entre quelque chose où ça se passe plutôt bien et puis une situation catastrophique, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment important de se dire que 2 degrés, c'est pas rien, ça va avoir des impacts importants. Surtout que si le climat se réchauffe, il se réchauffe avec des variations de plus en plus fortes. Des variations de plus en plus fortes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à certains moments, en fait, on aura des températures qui vont fortement varier. Et c'est vrai que nous, on l'a vu en 2024, hein, il y a eu des moments où il faisait super chaud alors que normalement il devrait faire froid, et à l'inverse, des moments où il faisait vraiment froid alors qu'il devrait faire chaud. Donc en fait, on va avoir sur des variabilités de plus importantes, sauf que le climat qui fait ça, ça aura des impacts importants sur l'agriculture en particulier, parce que l'agriculture, elle aime bien la stabilité, elle n'aime pas en fait d'avoir des zones, des moments où il fait très chaud, des moments où il fait très froid, des moments où il pleut beaucoup. Donc ça va être, c'est très 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 néfaste à ça, à notre activité, à notre stabilité. Et comme je vous le disais, avec plusieurs degrés, en plus, une montée des eaux, il y a beaucoup de villes côtières qui vont disparaître. Moi, par exemple, je suis originaire de Bretagne, hein, mes parents habitent en Bretagne, et je le vois, près de la côte, en fait, il y a des endroits où il y a eu de l'enrochement pour éviter que l'eau passe par-dessus les dunes. Et en fait, à un moment donné, près de Mousterlin, l'enrochement s'est arrêté parce que ils n'allaient pas en faire un enrochement non-stop tout le long de la côte. Et à ce moment-là, l'eau maintenant, lors des grandes marées, pénètre dans ce qui était avant des marais salants, en fait, des espèces de marais salants. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et les végétations sont grillées. Les végétations sont grillées, donc forcément, il n'y a plus de racines pour les retenir. Et à chaque grosse tempête, l'eau passe par-dessus les dunes et va dans ce fameux marais qui était auparavant plutôt d'eau douce. Et ça va donc remplir ce marais. La végétation et la faune va être touchée. Mais également, si un jour il y a une combinaison de grosses pluies, marées, tempête, Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tout simplement, ça va submerger et les maisons qui sont trop près de la côte, on va être les pieds dans l'eau. Donc voilà, et il faut se dire que ce réchauffement climatique, ça ne veut pas dire forcément moins d'eau, ça veut dire peut-être plus d'eau à différents moments qui sont très très concentrés, peu d'eau en très peu de temps, comme il y a eu dans différents pays, on l'a vu à Dubaï, etc. Donc il faut vraiment se dire que on va vers une instabilité des températures, une instabilité du climat, et ça va réduire fortement les cultures, augmenter les coûts des matières premières, ça va aussi avoir des impacts sur les structures, infrastructures humaines. Pour l'instant, on a encore les moyens de rembourser les gens. Il y a eu ce cyclone à Mayotte où ça a été une catastrophe totale. Ok, la France a encore les moyens d'aller réparer tout ça. On va réparer les maisons, on va repartir pour un tour. On va peut-être faire des petits aménagements pour éviter que ce soit pire la prochaine fois. Mais combien de temps on pourra encore le faire? Quand il y aura une crise économique, quand il y aura moins de travail, qu'il y aura moins de ressources financières de la part de l'État? Comment ça va se passer? Est-ce qu'à un moment donné aussi, les assureurs vont dire, bah non, stop, vous êtes en zone inondable, je suis désolé, on ne peut plus vous assurer, vous rembourser intégralement votre maison parce que ça arrive chaque année ou ça arrive tous les 3 ans. Maintenant, vous déménagez ou vous mettez en place quelque chose, mais on ne pourra plus vous assurer. Donc ça, faut vraiment être conscient de ça. Ça risque d'arriver à un moment donné. Donc les animaux et les végétaux qui vont disparaître, forcément, je parlerai pas de la grande barrière de corail, mais voilà, c'est un excellent exemple de l'impact en fait des températures sur nos écosystèmes. Et voilà, et à l'inverse, là on est dans des réchauffements climatiques, mais à un moment donné, il y a eu ce fameux petit âge glaciaire en Europe qui a eu un effet inverse avec donc du froid et des étés qui étaient très courts, avec des famines et une baisse en fait de la taille des personnes, hein. Je crois qu'à un moment, il parlait de la baisse de plusieurs centimètres de la taille des populations liée à ça. Donc en fait, il faut vraiment être clair que ces phénomènes météorologiques ne sont pas anodins. Si on se place maintenant sur le réchauffement des océans, là ici, je vous ai mis un petit graphique, on voit bien qu'on est au-dessus des normes depuis plusieurs années, hein, et tout ce qui est poissons, coraux, mais également le phénomène de la mousson en Asie, va être impacté. Et il y a déjà eu un cas il y a quelques temps de cela, hein, c'est El Niño qui avait changé, et qui avait El Niño, c'est le courant, hein, climatique qui permet, enfin le courant qui permet en fait d'adoucir un petit peu le climat, qui avait été modifié, et en un an, ça a réduit de 90% le nombre d'anchois disponibles. Ça a entraîné certes des famines, des faillites, pas des famines, hein, des faillites d'entreprises de pêcherie, mais il y a eu des impacts aussi indirects ailleurs dans le monde, puisqu'en fait, une grande partie des poissons d'élevage, saumon, etc., sont nourris avec du poisson naturel, du poisson sauvage. Et donc forcément, au-delà de se dire, les pêcheurs ont plus de quoi pêcher là-bas, et en fait, les poissons d'élevage, saumon, etc., ont également été impactés parce qu'il n'y avait plus de nourriture pour les élever. Voilà. Alors, je ne parlerai pas de la montée des eaux, j'en ai déjà parlé tout à l'heure avec la Bretagne, mais c'est clair que des villes comme Saint-Malo ont des soucis à se faire avec cette partie-là. Si jamais une partie de la glace au niveau des pôles fond, là, on voit bien lors des grandes tempêtes, les habitants de Saint-Malo, ils voient bien qu'ils ont les pieds dans l'eau. Là, ça va être plus les pieds dans l'eau, ils vont l'avoir jusqu'à la taille. Donc ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est tout ce qui est énergie abondante. L'énergie abondante, hein, c'est tout simplement le fait que dans notre société, on a de l'électricité en veux-tu, en voilà. On a de l'essence pour mettre dans les voitures pour faire une petite balade et aller chercher la baguette de pain. On a du gaz pour réchauffer nos appartements avec du chauffage. On a du nucléaire pour faire fonctionner nos appareils électriques, etc., etc. Sauf qu'en fait, ça va changer. Alors, la première chose, c'est ce que j'appelle, moi, la fin de l'énergie abondante. Comme le dit, je crois que c'est Jean-Marc Jancovici qui le disait, c'est le fait que l'énergie était pas chère, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, maintenant ça va être plus compliqué. Alors, il y a plusieurs phénomènes à prendre en compte. Le premier, en fait, c'est le phénomène donc de production. On voit bien qu'à un moment donné, les réserves naturelles vont être épuisées, en tout cas celles qui sont actuellement disponibles et répertoriées vont diminuer, puisqu'en fait elles sont pas, c'est pas illimité. À un moment donné, on arrive sur un maximum, ce qu'on appelle le pic pétrolier, et donc tout simplement, à un moment donné, les entreprises d'extraction, les pays extracteurs, vont pas pouvoir en enlever. Par exemple, tout ce qui était le pétrole qui était dans la mer du Nord, lui, ben, forcément, ça a disparu depuis un certain temps. On voit également des pays comme par exemple l'Arabie Saoudite, etc., qui n'ont plus une capacité à augmenter leur capacité de production. Et à l'inverse, ils sont en train de réserver une grande partie une partie de leur production à leur usage interne. Par exemple, Dubaï est vraiment un exemple type là-dessus, où on voit bien que le pétrole n'est pas cher, et donc on a des bâtiments réfrigérés, on a des pistes de ski dans des immeubles, on construit des immeubles les plus hauts de la Terre. Bref, avec ça, il faut faire fonctionner tout ça avec du pétrole, il faut dessaler l'eau, et donc forcément, le pétrole qu'ils ont à leur disposition, ils vont l'utiliser pour eux plutôt que le vendre à l'export. Donc en fait, on va avoir des soucis, surtout que le pic pétrolier, à un moment donné, on aura atteint toutes les ressources connues. Alors, on continue de découvrir des ressources de pétrole. Par exemple, la Russie a découvert en Antarctique des gisements de gaz. Ok, très bien. Mais ce gisement de gaz, en fait, va durer que 15 ans. La demande mondiale est toujours en augmentation. Et donc, en fait, malgré ce qu'on ait fait des découvertes de gisements gigantesques, eh ben, ça ne suffira pas à répondre, en fait, de manière éternelle à toutes nos demandes. Et même, il ne faut surtout pas aller extraire tout ce pétrole qui se cache sous terre. Pourquoi? Parce que si on va chercher le pétrole qui se cache sous terre, on va se retrouver dans un contexte où tout simplement on va jamais tenir les plus de degrés. Parce que si on continue à extraire du pétrole, on va plus prendre la voiture, on va plus produire des produits en plastique, etc., etc. Et ça va faire donc plus de pollution, plus de réchauffement climatique. Donc c'est un petit peu comme le serpent qui se mord la queue. C'est un cercle non vertueux. Et donc en fait, il faut surtout pas chercher à exporter et extraire toute la partie pétrole. Voilà. Donc c'est essentiel de comprendre ça. L'autre point que je voulais signaler, c'est également cet aspect transition énergétique. Alors ça, j'aime bien citer Jean-Baptiste Fressoz, que j'ai présenté tout à l'heure dans la partie introduction, hein. C'est un grand fan du fait de dire que la transition énergétique n'aura pas lieu. Tout simplement, on peut l'observer au travers des graphiques de consommation d'énergie, production d'énergie, donc l'énergie consommée qu'on voit là. On voit bien que l'énergie consommée ne diminue pas, malgré ici on voit l'éolien là qui progresse un petit peu en bas, hein. Il y a certes de l'énergie qui est utilisée maintenant pour des énergies renouvelables, hein, éolien, tout ce qui est également photovoltaïque, c'est vrai, ça prend une part plus importante, mais le problème, c'est que tout simplement, on ne vient pas supprimer de la consommation d'essence de pétrole, au contraire, on vient additionner. C'est-à-dire que on n'a jamais consommé autant de pétrole. Par exemple, en 2010, on était sur 41, je sais pas, 41 millions, je sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, on était sur ce chiffre-là et on est passé à 44. On est vraiment en augmentation des quantités et du volume, et donc en fait, ça va poser à un moment donné un problème, puisqu'en fait, certes, on va rajouter des éoliennes, on va rajouter du photovoltaïque, mais ça ne va pas réduire le montant global. On fait juste dire, ah ouais, j'ai toujours plus de ressources à ma disposition, donc je vais en consommer toujours plus. Voilà. Donc les énergies renouvelables ne remplacent pas les énergies fossiles, et on peut avoir aussi des problèmes au niveau de l'approvisionnement des terres rares. Parce que tout simplement, pour faire de la batterie, il faut du lithium. Alors le lithium, il n'y a pas 50 000 pays, il y a le Chili, il y a d'autres pays, je crois qu'il y a la Chine, etc. Et les terres rares, c'est la même chose. Donc comment on va faire? Ces pays-là, ils ont quand il y a par exemple un fabricant de voitures français, il y aura Peugeot qui dira, bah tiens, je vais vous acheter du lithium pour mes batteries de voiture. S'il y a un autre fournisseur américain qui est prêt à payer un petit peu plus cher, on vendra pas aux Français, on vendra à l'Américain. Et c'est pour ça qu'il y a certains constructeurs automobiles américains qui sont en train de racheter maintenant des mines et des choses comme ça, parce qu'en fait, ils veulent sécuriser leur approvisionnement. Si vous êtes plus capable de sécuriser l'approvisionnement, vous êtes susceptible en fait de payer plus cher que le marché, d'avoir des contraintes de distribution, etc., etc. Donc voilà, les énergies renouvelables, oui, c'est très bien, ça permet de produire plus vert. Oui, le nucléaire, c'est bien, ça permet de produire plus d'électricité. Mais en fait, le problème, c'est que en fait, nous, êtres humains, on a la volonté plutôt d'augmenter les dépenses plutôt que d'aller les rationaliser.